Nous allons lire dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 17. Le Fils de Dieu parle à ses disciples, la foule est aussi présente, et dit, Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Il parle de l'enseignement de l'Ancien Testament. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Verset 18. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota. La plus petite lettre de l'alphabet hébreu, pas un seul trait de lettre, comme les points, juste le point sur le i, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, les responsables religieux de l'époque de Jésus, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Dans son sermon, Jésus a commencé avec notre identité, ou si vous voulez, notre caractère. Que devons-nous être devant Dieu? Et ça, c'est les béatitudes. Mais notre identité n'est pas seulement notre caractère, c'est aussi notre rôle vis-à-vis des autres. Qui suis-je? Je suis un homme honnête, mon caractère, mais je suis un père et un mari. Mon identité, c'est ce que je suis en moi-même, mais c'est aussi mon rôle. Et Jésus nous a donné notre rôle. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Et maintenant, notre Seigneur va commencer à nous parler de, non pas de notre identité ou notre rôle, mais de notre comportement. Donc, il va nous parler de la loi de Dieu. Les ordres par lesquels Dieu nous commande comment se comporter et comment ne se pas comporter en tant que membre de sa famille, de son royaume. Et dans tout le chapitre 5, c'est ça. OK? Aujourd'hui, nous regardons tout simplement le préface de cette partie où Jésus va prendre des commandements de Dieu et il va les expliquer. Et nous allons tout simplement nous poser rapidement cinq questions. Dans la première, c'est quoi la loi de Dieu? C'est quoi la loi de Dieu? C'est des règles. C'est des règles de conduite. C'est des règles pour vous mettre sur des rails. Et ces rails sont les rails qui mènent à une vie comme celle de Dieu. C'est-à-dire, les ordres de Dieu vous aiguillonnent vers une vie de vérité, de bonté et de justice et d'amour. Même Jésus a dit une fois que il y avait deux commandements qui étaient les plus grands. Le premier, il a dit, c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, de ton âme. Le deuxième commandement le plus grand, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et puis il a dit, de ces deux commandements d'aimer dépend toute la loi. Tous les autres commandements de Dieu sont juste des ordres qui te montrent comment aimer Dieu et comment aimer ton prochain. La loi de Dieu, c'est une loi qui oblige à aimer. Alors, imaginez que vous ayez un voisin qui a une loi, qui suit une loi absolue. Peut-être c'est parce qu'il croit en Dieu. Imaginez que sa loi de conduite envers toi, son voisin, c'est que il ne doit jamais te dire un mensonge, mais toujours dire à toi la vérité et que la vérité. Imaginons aussi que sa loi lui dit qu'il ne doit jamais prendre ce qui est à toi, ta propriété, tes choses, ton argent, quoi que ce soit de toi. Et aussi, il ne doit jamais s'immiscer dans ta relation avec ton épouse, mais toujours respecter ton couple. Imaginez que sa loi, c'est qu'il ne doit jamais même t'envier ou convoiter ce qui est à toi, ta situation, ta position, ton argent, ta femme, tes enfants, mais il se fait un impératif de toujours plutôt se réjouir avec toi de ce qui t'a été donné. Ouh, quel voisin! Imaginons aussi que sa loi lui dit qu'il ne doit jamais être physiquement violent avec toi, verbalement violent avec toi ou émotionnellement violent avec toi, mais seulement patient, bon et gentil. Je viens de vous donner 5 des 10 commandements. Imaginons, quel Dieu va nous donner des ordres comme ça? Ça, c'est le premier point. C'est quoi la loi de Dieu? C'est un ordre qui nous mène sur des rails d'aimer et d'être comme lui. Deuxième question, c'est est-ce que les commandements, les règles, la loi, est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires? Il y a des chrétiens dans les milieux évangéliques qui disent non. Aujourd'hui, dans l'ère chrétienne, les chrétiens n'ont pas besoin de la loi de Dieu, ils disent. Vous saviez ça? Vous avez entendu ça? Oh, on l'entend souvent. Et il cite un verset dans le livre de Romains où Paul dit, nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Ils interprètent mal ce verset et ils disent ceci. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et lui, il nous guide à faire ce qui est bon. Et il nous donne envie de faire que ce qui est bon. Donc on n'a pas besoin d'une liste, d'un code. C'est mauvais, les codes, les règles. Nous sommes guidés par l'Esprit. Il y a là un petit grain de vérité avec beaucoup de fausseté. La vérité, c'est que Dieu, si tu es né de nouveau, Dieu te pousse à vouloir faire le bien et il te guide à faire le bien. Mais il te guide à faire le bien en utilisant les commandements de Dieu qui sont écrits dans la Bible. Je suis vraiment reconnaissant pour ça. Vous savez pourquoi? Moi, je veux des règles écrites noir et blanc. Je veux un code écrit. Vous savez pourquoi? Moi, je ne veux pas de religion où les gens se pointent et ils disent Dieu m'a dit de faire ça. Parce que vous savez que si la seule règle, c'est ce qui est dans mon cœur, l'esprit, tu peux te pointer et dire n'importe quoi. Mais Dieu m'a dit de te dire ça. Dieu m'a dit de faire ça. Qu'est-ce que je peux dire? Si c'est Dieu qui lui a dit. Mais si j'ai une loi, je peux lui dire, ça c'est pas vrai. Parce que Dieu a dit noir et blanc qu'aucun chrétien ne doit jamais faire telle chose. N'est-ce pas? C'est très bien les lois écrites. J'en suis très content. Mais qu'est-ce qu'on doit vraiment dire à ces gens qui pensent que l'esprit suffit? Moi, je leur dis que vous n'êtes pas encore au paradis. Je suis d'accord qu'au paradis, un jour, vous n'aurez plus besoin de commandements écrits. Mais en tant que chrétien, moi et toi, si vous êtes chrétien, on est toujours bien imparfait. Et donc, vous avez besoin des lois écrites pour deux raisons. Vous voulez les deux? Devinez. La première, information. Vous avez besoin d'information. Parce que intuitivement, vous ne savez pas, même avec l'Esprit de Dieu dans votre cœur, qu'est-ce qui est la chose qui est droite devant Dieu à faire. Qu'est-ce qu'il veut? Je vous donne un exemple. Si ce n'était pas écrit dans la Bible, est-ce que vous auriez su intuitivement que si quelqu'un te frappe sur une joue, que vous devez lui tendre l'autre joue? Je ne l'aurais jamais cru que mon amour devait aller jusqu'à ce point-là. C'est le fait que Dieu l'ait dit. C'est la loi qui m'a guidé. Parce que est-ce que vous aurez su qu'il fallait bénir ceux qui vous maudissent et prier pour ceux qui vous injurent? Ah oui. Est-ce que vous auriez... Bon, je vais m'arrêter là. Mais vous pouvez voir, on a besoin d'informations. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle j'ai besoin des lois écrites, des commandements. C'est j'ai besoin d'être contraint. Je vous donne un exemple humain et puis un exemple par rapport à Dieu. Est-ce que vous avez jamais conduit sous la limite de vitesse parce qu'il y avait des radars? Dites-moi la vérité. Et si la radar, si la loi n'était pas là, vous auriez conduit bien plus vite. Je pense que nous avons besoin, parce que nous ne sommes pas encore vraiment parfaits, et parfois, pour différentes raisons, nous avons envie de conduire trop vite, de manière dangereuse pour ceux qui sont dans notre voiture et la voiture des autres. N'est-ce pas? On sait, mais on est pressé. Et heureusement, il y a la loi et la sanction qui va avec la loi, parce que toute loi a une sanction. Si une loi n'a pas une sanction, c'est pas une loi, hein, c'est un conseil. Vous savez que la France, excusez-moi, ouvre une parenthèse. La France vient de publier une loi que tout le monde doit avoir des détecteurs de fumée dans la maison. Vous l'avez su? OK. Mais vous savez ce qui a été dit à la radio? Sur les textes de la loi, il n'y a aucune sanction si vous ne le faites pas. Et tout juriste qui vaut le nom en France va vous dire, ce n'est pas une vraie loi. Parce qu'une loi sans une sanction n'est pas une loi, ce n'est pas une obligation. N'est-ce pas? Le patron dit à ses caissiers, ne piquez pas dans la caisse. Mais si vous le faites, il n'y aura aucune réprimande ou sanction. Non. Non, ça n'existe pas. Pas dans les vraies lois. Ne frappe pas ton frangin dans le visage. Mais si tu le fais, je ne te reprocherai pas. Non, il n'y aura aucune conséquence. Non. Donc, nous avons besoin de la contrainte. Parfois, parce que nous sommes partagés entre le désir de faire le bien et de ne pas le faire. J'arrête cela. Donc, nous avons vu ce qui est la loi et nous avons vu pourquoi les lois sont nécessaires pour nous guider et pour un peu nous contraindre. Parce qu'on a encore besoin de ça. Mais troisièmement, on va parler de Jésus et la loi. OK, regardez le passage. Jésus dit ceci au verset 17. Ne pensez pas. Ça veut dire qu'il va nous dire qu'il y a des gens avec des malentendus. Ne pensez pas que je. des malentendus au sujet de Jésus. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi. Des malentendus au sujet de Jésus et la loi de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus, au début de son ministère public, a des clashs, des conflits, déjà beaucoup, avec les responsables religieux, les pharisiens, au sujet de la loi. Par exemple, les pharisiens disent « Dieu vous commande de vous laver minutieusement et rituellement avant chaque repas. » Et Jésus permet à ses disciples de ne pas faire cela, de manger sans avoir fait un lavement rituel. Qui a raison? Jésus guérit souvent des gens le jour du sabbat. Les pharisiens disent « Le commandement de Dieu dit que vous devez vous reposer absolument et complètement le jour du sabbat et ça veut dire que tu ne peux même pas faire le bien de guérir quelqu'un le jour du sabbat. » Et Jésus dit « Non, c'est pas vrai. » Donc il y a un conflit et les pharisiens veulent que les gens pensent que Jésus est en train d'abolir la loi de Dieu et que c'est un faux prophète. Et Jésus doit corriger le tir. Et donc, il dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Alors, arrêtons-nous là sur un mot. C'est le mot « accomplir ». Mais ce n'est pas le mot « accomplir ». Parce que le mot, vraiment, ici, « pléro » en grec, c'est le mot « remplir ». Par exemple, ce mot est utilisé pour parler du fait de remplir un filet de poisson ou de remplir un trou dans la rue. Ok? Et une version de la Bible traduit bien cette phrase en Matthieu 5:17 en disant ceci au sujet des commandements de Dieu. Voilà comment Jésus parle selon cette version. Je ne suis pas venu pour les supprimer, supprimer les commandements de Dieu, mais pour leur donner tout leur sens. C'est ça. Je suis venu non pour abolir, mais pour remplir dans le sens de donner à la loi de Dieu, de redonner à la loi de Dieu aussi, tout son sens. Ok? Maintenant, je vais vous donner trois exemples parce qu'il y a trois sortes de lois dans l'Ancien Testament de la Bible. On va dire ça. Il y a des prophéties. Comment est-ce que Jésus les remplit, leur donne tout leur sens? En les réalisant, la Bible prédit certaines choses, que Dieu allait amener un salut pour pardonner les âmes, pour changer les âmes. Et Jésus vient réaliser et il remplit la loi de Dieu. Il l'amène à tout son sens parce qu'on voit, ah, ça arrive. Deuxième sorte de loi. Il y a des lois cérémoniales. Ça, c'est des lois dans l'Ancien Testament. On ne les a plus. Comme la loi des sacrifices. Il fallait sacrifier un animal quand on allait au temple. Avant de pouvoir s'adresser à Dieu, il fallait qu'un animal meure pour que je puisse parler à Dieu. Alors, les lois cérémoniales servent à quoi? Elles sont là pour donner un portrait, une préfiguration de quelque chose aussi que Jésus allait faire dans le salut. Quand Jésus vient, c'est lui le vrai agneau de Dieu. Un agneau ne peut pas vous purifier et vous rendre pur pour parler à Dieu. C'est un agneau. Mais le Fils de Dieu, c'est lui qui prend sur vous, sur lui-même vos péchés. Lui, il peut en payer la peine et vous rendre pur devant Dieu. D'accord? Donc, comment est-ce que Jésus remplit les lois cérémoniales qui nous ordonnaient, qui ordonnaient les Juifs à sacrifier? Il vient pour être le vrai sacrifice. Et donc, les sacrifices de la loi cérémoniale sont finis. Elles ne sont pas abolies, mais accomplies. On ne les fait plus, mais non pas parce que Dieu a dit « Non, j'ai changé d'avis, vous n'avez pas besoin de ça. » mais parce que Dieu dit, je l'ai fait complètement et réellement par Jésus maintenant. Pas besoin d'agneau parce que Jésus, le vrai agneau, a tout fait. Dernière sorte de loi, excusez-moi, je traîne, mais c'est la loi morale. C'est quelle sorte de loi? Ça, c'est la loi que Dieu vous adresse en vous disant, vous devez vous comporter comme ça si vous voulez être dans ma famille. Cette sorte de loi, c'est la loi dont Jésus parle. Regardez bien. Il dit, en verset 18, « En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de la lettre de la loi ne passera pas jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes de faire le même, c'est la loi morale. » Et dans tous les exemples qu'on va voir dans la suite du chapitre, dans les semaines à venir, le meurtre, le vol, l'adultère, le divorce, toutes ces lois, c'est la loi morale qui vous concerne, où Dieu vous commande sur comment vous devez comporter. Donc Jésus ne pense pas vraiment à la loi cérémoniale surtout, ou la loi prophétique, mais il pense à la loi morale et il dit que cette loi-là, le ciel et la terre vont passer avant que ça passe. Jusqu'à la fin de ta vie, cette loi, Dieu vous commande de vivre d'une certaine façon. Ok, donc ça c'était le plus difficile et maintenant j'ai deux points, mais qui sont très rapides, mais très importants, parce qu'on arrive au vif du sujet. Donc, quatrième avant-dernière question. En tant que chrétien, quelle doit être ton attitude envers la loi morale de Dieu? Les commandements que Dieu vous adresse. Alors, regardez avec moi dans le verset 19 au début. Jésus dit, celui, vous voyez qu'il a changé de sujet. Avant, il parlait de lui, Jésus est la loi. Maintenant, c'est le chrétien la loi. Au début, il disait, ne pensez pas que il parle de lui-même. J'abolis la loi. Et maintenant, il parle de vous et la loi. Il dit, celui qui violera. Ok, on va voir le chrétien et la loi. Donc, celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Alors, première attitude envers la loi, et vous devez avoir deux attitudes. Première attitude est négative, on vient de le lire, et je résume, je ne dilue pas les commandements de Dieu, je ne les taille pas, je ne les coupe pas à ma taille. D'accord? C'était le problème des pharisiens. Si un commandement leur demandait trop d'amour, ils diminuaient, ils diluaient, et ils disaient, par exemple, quand Dieu dit « aime ton prochain », ça veut dire « aime les autres juifs ». Mais tu n'es pas obligé d'aimer les non-juifs. Tu vois, ils changent, ils coupent un peu, ils arrondissent pour arranger leur cœur mauvais. Et nous, on fait constamment ça avec la loi. Non, Dieu ne peut pas nous commander de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Non! Ou Dieu ne peut pas nous demander... vous pouvez ajouter, n'est-ce pas, d'aller à l'église tous les dimanches, ou de respecter son sabbat, ou de prier, ou vous pouvez. Donc, on coupe, on taille, on change la loi de Dieu pour que ça convienne à ma vie. D'accord? Et Jésus dit que celui qui viole le plus petit, et qui enseigne à d'autres, non, tu n'as pas besoin de faire ça, il est en danger. Il est en danger. Mais la deuxième attitude est plus positive. Il dit dans la dernière partie du verset 19, lisez avec moi, « Mais celui qui les mettra en pratique, même les plus petits, et qui les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Donc, mon attitude positive, c'est quoi? C'est que j'aime et je tâche d'obéir à toute la loi de Dieu et de l'enseigner à d'autres. Ça veut dire que, par exemple, sa loi au sujet du mariage, du divorce, de la sexualité, de la générosité envers les pauvres, du pardon à ceux qui me font des torts, de la nécessité de prier, de chercher la face de Dieu, les commandements d'être unis au peuple, de faire partie d'une église, de se faire baptiser, de témoigner publiquement de ma foi en Jésus-Christ, de garder le jour du sabbat, et ainsi de suite, que tout ce que Dieu commande, je tâche d'obéir parce que je crois que c'est là les rails de l'amour et de la bonté. Vous pouvez vous regarder, je me regarde par rapport à la loi de Dieu et je me dis, est-ce qu'il y a un commandement quelque part où je coupe, où je dis que ça, cette personne, je ne suis pas obligé d'aimer, cette action, je ne suis pas obligé de faire. Je termine avec la cinquième question. Pourquoi cette attitude envers la loi de Dieu est-elle tellement importante? Verset 20. Car, et donc il donne la raison pour cette attitude. Car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc, notre dernière question, pourquoi cette attitude envers la loi de Dieu? Je ne la retranche pas, j'essaie de garder tout, de respecter tout. Pourquoi cette attitude est-il si importante? Jésus dit, si ta justice, si ta vie face à ma loi, si ta justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous serez condamnés à l'enfer à la fin. Cette phrase devait faire sursauter les disciples et la foule. Parce que Jésus vient de condamner tous les responsables religieux du pays. Il vient de dire que ce sont des gens qui diluent, qui transforment, qui pervertissent, qui diminuent les exigences de ma loi pour convenir à leur comportement actuel. Et Jésus dit que si vous avez une attitude comme ça, si ton attitude habituelle c'est de retrancher, d'arranger les lois de Dieu pour toi, ça veut dire une chose. Ça veut dire que tu n'es jamais revenu à Dieu. Ça veut dire que tu ne t'es jamais repenti d'être ton propre patron. Tu t'es jamais repenti d'être celui qui fait tes propres règles pour ta vie. Tu n'as jamais cédé cette place pour dire à Dieu, c'est toi qui commandes et c'est pas à moi de commenter sur ce que tu exiges. Vous voyez la conversion. La vraie vie avec Dieu commence quand vous lâchez, quand vous vous repentez et quand vous dites « J'ai assez de confiance en toi pour croire que tes ordres sont bons, que la manière de vivre que tu commandes est parfaite et que tout ce que je n'aime pas là-dedans est une erreur. » Où est-ce que nous en sommes? Est-ce que nous sommes prêts à avoir une justice qui va au-delà des gens qui ont une religion qui leur convient? Est-ce que tu as une relation avec la loi de Dieu qui dit non pas « je te coupe pour que tu me conviennes », mais plutôt « toi tu me corriges pour que je lui convienne ». Cette différence, cette décision, c'est le début de la conversion. Et Je vous exhorte et vous encourage, si vous n'y êtes pas encore arrivé, de penser à Jésus sur la croix. Pourquoi? Parce que là, Jésus respecte tellement les lois de Dieu qu'il meurt pour ne pas les enfreindre. Mais il meurt parce que vous les avez violées. Il aime tellement la loi de Dieu, il le croit tellement juste et bonne et nécessaire qu'il est prêt à perdre sa vie pour que la sanction de la loi contre vous soit respectée et payée. Et que vous puissiez maintenant vivre sous la loi de Dieu, mais sans peur de la sanction, parce que la partie sanction, il a déjà pris. J'enfreins les lois de Dieu. Je ne suis pas parfait. Mais ce qui est merveilleux pour moi en tant que chrétien, c'est que le joug du Seigneur, le joug qu'on pose sur les épaules, hein, le joug est léger. Sa loi est devenue légère. Parce que je n'ai pas peur de l'enfer, parce que Jésus a déjà pris cette partie pour moi. Deuxièmement, je ne suis pas seul à essayer d'obéir à la loi dans ma propre force. Pas du tout. C'est Christ qui œuvre en moi le vouloir et le faire. Et troisièmement, je n'ai pas besoin d'être parfait tout de suite. Dieu me demande d'obéir à sa loi complètement, mais pas complètement maintenant. Il sait que je dois être transformé et grandir. Et il me met sous un joug qui prend en conscience mon besoin de sanctification. J'ai besoin de tendre vers la perfection constamment, mais pas d'arriver tout de suite. Ça, c'est la sorte de vie qu'il me donne. Il est en train de m'amener lui-même sur ses rails vers l'amour, la justice et la bonté qui convient à son royaume. Que Dieu puisse nous aider à aimer la loi de Dieu et à lui rendre son dû.
Maintenant par le devoir d'obéir à ta loi, sachant que Jésus l'a accompli pour nous. Mais Seigneur, nous reconnaissons tous les bienfaits qui s'attachent à ta loi, car ta parole nous dit, c'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Et Seigneur, cela est vrai dans le monde physique. Si nous ne respectons pas les lois de la physique, nous risquons notre vie. Je ne peux pas me permettre de vivre 3 heures sous l'eau sans masque. Je ne peux pas me permettre de sauter de la tour Eiffel. Et Seigneur, tu m'enseignes donc que je dois respecter les lois physiques. Merci de nous apprendre que nous devons aussi respecter tes lois morales, car elles sont bonnes et bienfaisantes pour nous. Apprends-nous à être plus disciplinés dans nos vies et mieux respecter tes lois pour notre propre bien et pour le bien de ceux qui nous entourent. Nous comptons sur ta grâce pour cela, car sans ta grâce, c'est impossible, mais nous savons que tu œuvres en nous, comme David l'a dit, tu crées en nous le vouloir et le faire. Merci Seigneur. Amen.
Amen.
Seigneur, merci parce que tu nous invites à prendre ton joug sur nous. Et Seigneur, merci parce que c'est une loi de liberté. Ô Seigneur, quand nous étions esclaves au péché, ça, c'était vraiment pas de liberté. Mais merci pour cette loi merveilleuse parce que c'est léger. Merci Seigneur parce que toi tu nous donnes le savoir et le faire. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Père, merci pour ta loi, parce que par elle tu nous conduis sur les chemins de la vie, parce qu'elle nous indique quel est ton caractère, quelle sorte de Dieu tu es, un Dieu qui nous encourage, qui nous pousse à l'amour. Et Seigneur, nous te prions alors par ce que nous avons pu entendre ce matin, d'avoir un zèle renouvelé pour l'obéissance à ta parole, et que par ton esprit, Seigneur, tu nous équipes pour t'obéir réellement, en sachant, Seigneur, que tu es un bon Père qui sait où nous en sommes et qui voit aussi notre besoin de progresser dans la vie chrétienne. Nous te prions de nous aider à le faire patiemment et avec zèle et entrain. Dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Je vous invite à vous lever pour le chant d'un dernier cantique, c'est le 179, dans la toile à gloire. Je vais lever le 179 et rester debout après pour la réécriture.